Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra Davidnel. C'est tout de suite.
De l'Ermitage à une excursion clandestine au Tibet. Et nous avons quitté Alexandra Davidnel la semaine dernière, le 15 juillet 1915, toujours dans son ashram, son ermitage à 4000 mètres d'altitude. Le 20 août, Alexandra est dans sa cahute, comme elle l'écrit, toute primitive et rustique, mais s'y sent bien, elle travaille, et elle, philosophe sur ceux qui l'entourent. Le bouddhisme de ces montagnards est purement nominal. En réalité, ce sont de simples païens, animistes et fétichistes. Quelques hauts lamas seuls entendent quelque chose à la philosophie. La masse ne se trompe cependant pas sur le caractère inférieur de sa religion. Elle sait qu'il y en a une autre plus élevée, plus vraie, mais elle la considère comme hors de portée de l'intelligence du commun des hommes et ne tente aucun effort pour s'éclairer à son sujet. Les gens pieux espère qu'un jour, après de nombreuses renaissances successives, ayant accumulé un grand nombre de bonnes actions, ils se trouveront doués d'un intellect apte à aborder cette haute religion des Bouddhas. En attendant, ils se comportent comme des sauvages. Les lamas instruits ne cherchent pas à les éclairer. Il entre sans doute quelques sentiments cupides dans cette indifférence, car le rituel, les conjurations, etc. rapportent des cadeaux. Mais il n'y a quand même pas que ce mauvais motif. Ces lamas pensent qu'il est absurde de chercher à faire voir les fleurs, les paysages, la lumière du soleil à des aveugles nés. Le plus charitable parti à prendre à leur égard est de les aider à vivre aussi paisible et heureux que possible dans leur monde d'aveugles. Il y a des concepts philosophiques qu'il faut tenir secrets, pense-t-il, réservés à une élite. Ils tueraient moralement les esprits faibles. Ces grands yogis du genre de ceux qui m'honorent de leur amitié, tels que celui qui vit dans le voisinage de ma nouvelle demeure, sont à tout prendre des sceptiques transcendants. Un d'entre eux, un vieillard, mort récemment dans l'Inde, était le plus admirable philosophe que j'ai jamais rencontré. Il m'a écrit sur le Vedanta, c'est-à-dire qui définit la nature de l'existence, des lettres que j'insérerai dans mon livre. Oh, je le regrette beaucoup. Mais des êtres de cette sorte ont dépouillé toute personnalité. Ils sont devenus de pures idées. Ils sont devenus le Brahma, c'est-à-dire le créateur de la matière et de l'univers, comme disent les Védantins. Et leur mort n'apparaît pas et n'est pas sentie de même façon que celle du vulgaire. Mais tout cela c'est du mysticisme et n'allons pas plus loin. Alexandra va continuer ses travaux linguistiques pendant tout ce temps qu'elle va passer dans son ermitage. L'un tibétain, l'autre sanscrit, sous la direction de deux hommes compétents. Pour le langage courant, elle s'y exerce avec tout ce qu'elle rencontre, et principalement ses propres domestiques. Il n'y a qu'une chose qui la dérange quand même un peu, c'est le froid. Elle écrit, si seulement il faisait un peu chaud, je n'aime guère le froid, et s'il n'y a pas d'été. Je dis plaisamment aux tibétains, alors accrochons-nous, Tada, Kumchka, Chuchuindu, Jugla, Junka, Champo, Yong, Intiam, Diru, Junka, Nomansum. Elle écrit toujours à Philippe, je transcris phonétiquement pour te donner une idée du son de la langue, mais la translittération ne correspond en aucune manière à la réelle orthographe. Et cela veut dire, maintenant, c'est le petit hiver, plus tard, ce sera le grand hiver, ici, c'est toujours l'hiver. Je suis sûre que vous aviez deviné. Mais ses discours sur les concepts philosophiques puis sur le froid lui font écrire « Tout cela paraît verbiage bien futile à ceux qui sont à la guerre. Il ne peut en être autrement. Et pourtant, des guerres, il y en a eu beaucoup, malheureusement. Il y en aura d'autres dans l'avenir. Des hommes meurent. Il en est mort beaucoup. Il en mourra beaucoup encore. Et les idées toutes immatérielles et fragiles qu'elles paraissent en présence de faits brutaux, les idées demeurent plus longtemps. Elles survivent aux hommes, aux cataclysmes de la nature et de l'histoire. En septembre, Philippe lui écrit tristement. Il a, dit Alexandra, une crise d'âme. Elle le comprend, car pense-t-elle, il est des êtres à qui la solitude est affreusement pénible. Mais je ne suis pas certaine que les paroles de son épouse vont réconforter Philippe dans cette lettre datée du 7 septembre 1915. Il y a des êtres qui souffrent de la solitude sentimentale, du manque d'amitié ou de tendresse, qui ont besoin qu'on les cajole. Parmi eux, les uns sont inintelligents et prennent pour argent comptant les marques d'affection qu'ils reçoivent. Ils sont trop peu clairvoyants pour comprendre qu'en réalité, chacun n'aime que soi-même, ne cherche que ses propres sensations. Il y a des siècles qu'un penseur anonyme écrivait « C'est pour l'amour du soi que nous sommes chers époux, enfants, parents, amis. » Il y en a, continue-t-elle, qui se délectent dans le sacrifice, la douleur, l'abnégation. On dit, comme cette femme, cet homme, aime cet autre, lui sacrifiant tout, en fait. Ils aiment la sensation qu'ils tirent de leur sacrifice. Mais, continue-t-elle en s'adressant à Philippe, les intelligents de ton espèce ne sont pas dupes. Ils savent la vanité des paroles et des gestes d'affection, mais ils les désirent quand même, parce que, après tout, le chatouillement mental qu'ils produisent leur est agréable. Et il y a des gens qui ont la passion du vrai, qui s'acharnent à tout démolir pour regarder ce qui se trouve à l'intérieur, qui ont la manie de la dissection. Ils appartiennent à cette espèce de maniaque. Mais parmi ces mêmes intelligents, il y en a comme toi qui se fient du vrai. Ils se disent, si le pain, le beurre que je mange ont bon goût et me nourrit, au diable si j'ai besoin de savoir s'ils sont pur froment ou pure crème. Ce que pense au fond l'être qui me prodigue ses caresses m'indiffère totalement. Les mains sont douces et mon épiderme en ressent satisfaction. C'est tout ce qu'il me faut. Des mots aimants m'accueillent, c'est une musique qui me plaît. S'ils sont sincères ou non, je n'en veux rien savoir. Là, c'est un genre de sagesse, et peut-être la meilleure pour celui qui veut vivre parmi ses semblables. C'est la tienne, je le sais. Et puis, il y a des gens, encore, à qui la solitude intellectuelle est insupportable. Et je confesse ma faiblesse, je suis du nombre. Ne pouvoir parler à personne d'études, de philosophie, supplice pénible. Je l'ai enduré des années à Tunis. Un mot jeté au hasard sur des questions religieuses ou philosophiques te faisait l'effet de divagation de dément. Et au sommet de cette échelle, il y a les solitaires, qui paraissent n'avoir besoin d'aucune compagnie. Eh bien, ce serait erreur de le croire. J'en connais quelques-uns de ceux-là qui vivent pendant des années dans des endroits presque inaccessibles, sans voir qui que ce soit. Leur solitude n'est qu'apparente. Leur esprit est un monde peuplé d'êtres, d'idées innombrables, et leur caverne nue est un salon où l'on cause même fort bien. Je ne pense pas, mon bien cher Nouchi, que dans les heures que traverse notre pays, il y ait place pour nos petites souffrances. Chacun de nous a autre chose à regarder que son petit moi et les exigences puériles de celui-ci. Il y en a beaucoup qui donnent leur vie et la donnent de bon cœur pour éviter que la France périsse et que la barbarie triomphe. Vraiment, en songeant à cela, en songeant à tous ceux qui depuis un an tiennent campagne loin des leurs, ayant laissé derrière eux leur famille sans ressources, on se trouve mesquin de penser que sa maison est vide, sans caresse, sans baiser. Il y a eu un admirable mouvement chez nous. Nous nous croyons veules et nous nous sommes réveillés énergiques. Oh, les cœurs a été un cri de ralliement pour la plupart et cette fermeté nous sauvera. Thank you. novembre 1916. Le système est très agité à cause de la conscription que l'on organise, car les paysans ont déclaré qu'ils ne veulent pas être soldats et parlent de se révolter. L'Angleterre est en train de s'approprier en douceur toute la région de Guernsey, au Tibet. Et Alexandra écrit « Dans ma solitude, je subis le contre-coup de tout cela. Mes convois de vivres traînent sur les routes. Si j'achète des pommes de terre à X, son chef Z, qui aurait voulu me les vendre lui-même, ou suit le pauvre diable et l'oblige à lui payer la moitié de ce qu'il a reçu de moi. Pleurs, gémissements. J'ai dit aux dépouillés de porter plainte à Gantin. Ils n'osent pas. Les lamas ont failli en venir aux mains avec les gens du village de la Chêne. Pêche ancêtre. En voilà en qui la contemplation des sublimes Himalayas ne fait pas naître des pensées de calme. En fait, ils ne voient pas plus les Himalayas que ne les voient leurs bestiaux qui pèsent sur les cimes. Il commence à neiger. Je suis inquiète au sujet de mon convoi de riz attendu dans une quinzaine. Et s'il allait ne pas pouvoir passer? Ces préoccupations-là semblent drôles à des citadins, pas vrai? Nous sommes mi-décembre. Alexandra attend donc encore le convoi de riz. Le tout dernier de l'année, dans une mitaine, venant du sud, et dans 3 ou 4 jours, les derniers approvisionnements venant du nord, c'est-à-dire du Tibet. Elle écrit « Après cela, toutes les cambuses seront remplies, et la neige pourra venir si elle veut. Ces approvisionnements, quoiqu'ils ne ressemblent pas à ceux des magasins généraux de Paris, sont simplement considérables. Il y a environ 120 livres de beurre, 500 kilos de riz, autant de maïs, 80 kg de farine de blé, autant de farine d'orge, environ 1200 kg de pommes de terre navées radis tibétains, environ 150 kg de lentilles et fèves de toutes espèces, les épiceries, conserves de thé, etc., 40 kg de graisse de mouton pour les domestiques et 14 moutons entiers pendus dans une chambre, naturellement frigorifique, où la viande est à l'état de bois dur et se découpe à coups de hache. Je ne puis imposer le végétarisme à mes domestiques en hiver. Le froid est intense et l'attitude y ajoute beaucoup. Et puis, ces garçons n'ont aucune vocation d'anachorète. Ils restent dans cette solitude à condition de manger beaucoup et bien. Manger est la préoccupation qui prime tout chez les Tibétains. Et je croyais que cette viande gelée et durcie, cette sorte de tas à chaud séché, non par le soleil mais par le vent, devait être une triste pitance. J'en ai goûté, et ma foi, c'est très acceptable, quoique évidemment fort loin de la saveur d'un gigot parisien cuit à fond. Mais le nouvel an arrive, et Alexandra décide de le célébrer dignement. On cuira du riz au beurre avec du sucre et des coins. C'est un mets que seuls les Rajas, les très hauts lamas et autres grands personnages visitent au Tibet. Les domestiques sont un peu effarés de penser qu'ils vont en goûter. Puis nous irons en pique-nique au bord de la rivière, et là, les garçons joueront au football, courront, sauteront par-dessus les obstacles. Il y aura des prix pour les gagnants. Un cerf-volant est attendu de Calcutta, ainsi que des petits drapeaux, 60 centimes, français, belge et anglais. Ah, ce sera une grande fête. Tu comprends que pour des jeunes garçons, ce n'est pas très folichon de demeurer sans camarades dans un endroit solitaire. Alors, il faut bien de temps en temps les amuser un peu. Mais en fait, d'événement, à l'ermitage de Téchène, Alexandra est malade le 25 décembre et en plus, sa bicoque a failli brûler. Nausées, vomissements, le froid intense oblige les domestiques à rallumer le poêle. Et tout à coup, elle voit le toit en flammes. Elle court dehors, bat le gong et crie. Les domestiques sont vite sur le toit à éteindre le feu. Tout est sale et Alexandra grelotte. Du feu dans un autre poêle, du thé, des bouillottes, mais dans la journée, elle a toujours de la fièvre. Et puis, quelques jours après, un peu rétablie, Alexandra emmène ses garçons, c'est-à-dire les bonnes ou les garçons, pique-niquer et jouer à quelques kilomètres au bord de la rivière. Mais en janvier 1916, la question de l'argent redevient à nouveau cruciale pour Alexandra. Et elle écrit à Philippe « Cela m'ennuie de te le demander, mais voici longtemps que tu ne m'as rien envoyé. Nous ne savons pas quand la guerre prendra fin. Et il est agréable de ne pas se sentir trop gêné quand on se trouve loin. Le total va tout de suite s'élever à cause de la somme que je dois rembourser. Si tu pouvais envoyer 5000 francs, je crois qu'une fois tout remboursé, il pourrait me rester 1500 à 1700 francs pour moi, ce qui ferait 900 roupies. Tu vois, ce n'est pas le Pérou, mais cela m'aiderait. Janvier, février, 1916, Alexandra vit dans sa solitude et la neige s'amoncelle chaque jour davantage. Elle écrit, pas d'événement dans ma solitude. Je suis là avec mes quatre jeunes garçons et une vieille femme, la mère de l'un d'eux. Je ne les vois guère que le matin et un peu au dîner qu'ils me servent dans ma caverne. Parfois, je fais ce qu'on appelle en tibétain « femme », c'est-à-dire, pendant plusieurs jours, je ne vois personne ni ne parle à personne. On pose ma nourriture dans la chambre voisine et l'on agite une sonnette pour m'avertir, puis l'on se retire. C'est très reposant ces jours de solitude complète. Alexandra évoque à nouveau la guerre. Cette guerre, plus on y songe, plus elle paraît abominable, non seulement par l'horreur du carnage actuel, mais pour le recul qu'elle va infliger à la civilisation. Quant à la France, qui sortira de ses années de tourmente, je ne la vois pas si magnifique. Nous aurons réappris la brutalité que nous commencions à grand peine à désapprendre. Les vieilles théories barbares reprendront le dessus. C'est la défaite de l'intellectualisme, des idées rationnelles qui peu à peu montaient à la tête par-dessus les broussailles de la routine, des conventions fausses. C'est la défaite du peu de beau et de bien qui divinement essayaient de se faire place. Triste assurément. Je crois bien que socialisme, féminisme, rationalisme et beaucoup d'autres ismes sont enterrés. Après la guerre, il n'y aura plus d'autre idéal que le soldat. Nos soldats. On ne leur a pas demandé leur avis pour les envoyer sur le front. Et ma foi, quand on se trouve là, le plus simple, le plus commode, c'est d'être brave. Nous sommes braves. Les Boches aussi le sont. Et les autres peuples également. Ah, c'est un beau mot, brave. Mais pour le philosophe, il ressort plutôt du spectacle de cette guerre que nous sommes retombés à l'état de bêtes fauves. Le bon monsieur Brieux s'intéresse au sort des femmes après la guerre. Il a ouvert une sorte d'enquête à ce sujet dans le journal. Amusant, vérité. Je crois que les femmes, comme les hommes, auront rétrogradé. Je ne sais si elles accepteront sans réclamation le rôle d'animal reproducteur intensif qu'on leur assigne maintenant de tous côtés. Mais, en tout cas, le fait de n'avoir pas été dans les tranchées les desservira fortement dans une société qui en sera revenue au culte de la force brutale. Pour ceux dont la vision des choses n'a pas été obscurcie par la fumée des bombes et dont l'esprit a résisté au vertige de cette tuerie, pour ceux qui continuent à aimer ce qui est logique, clair, rationnel, enfin, ce qui tend à écarter la souffrance, pour cela, la société de demain n'offrira guère d'attrait. Mieux vaudra qu'ils essayent à gagner quelques tabors solitaires, pour y dresser leur tente d'ermite, comme elle-même l'a fait. Triste, triste. On se laissait aller à rêver de progrès, à croire à l'impossibilité du retour de la folie féroce du siècle passé. Quel réveil! Et comme ils donnent raison à ces sages qui ont déclaré « Le monde est douleur, et à jamais il sera tel ». Celui qui veut rejeter la douleur doit passer par-delà le monde. Fillette, je m'étais prise du mot de Pierre Valdo. Le monde est une charogne et ceux qui s'y attachent sont des chiens. Je l'avais inscrit sur un carton et pendu au mur de ma chambre. Je viens de faire de même dans mon ermitage, mais au-dessous de la parole de l'hérétique méridionale, effectivement il était de Lyon, j'ai écrit « Le monde est un mirage et ceux qui paraissent s'y attacher ne sont que des ombres. » En ce début d'été 1916, Alexandra juge son savoir suffisant et elle se prépare à quitter son ermitage et sa vie d'anachorète dans la solitude et le recueillement. De plus, elle a beaucoup travaillé le tibétain de sanskrit et se sent prête à pénétrer au Tibet. D'ailleurs, son ermitage était très près de la frontière entre le Sikkim et le Tibet. Elle organise donc cette échappée qui est environ d'une bonne semaine de marche, mais clandestinement, sans l'autorisation du résident britannique et en compagnie seulement d'Afour Yandel et d'un jeune novice pour les servir. Elle écrit quelques recommandations à Philippe, son mari, le 20 juin 1916 avant de partir. Je pars dans une semaine pour Choten Nima, au Tibet, et quelques au-delà encore imprécis dont je te parlerai après mes excursions accomplies. Je te prie, dans les lettres que tu m'écriras, de ne jamais écrire le mot Tibet. Tu peux user de périphrases. Par exemple, le pays des neiges s'applique tout aussi bien aux Himalayas. C'est même la traduction exacte du sanskrit. Hima égale neige, laya égale demeure. Par ce temps de guerre, certaines lettres sont ouvertes par la censure et de petites excursions dans mon voisinage pourraient être interprétées comme de réels voyages d'exploration dans un pays qui reste encore aujourd'hui territoire fermé. Il pourrait survenir des ennuis à la suite de malentendus de cette espèce. Puis elle écrit à Philippe depuis Choten Nima, écrit-elle la date approximative du 4 août 1916. Elle a un peu perdu le compte des jours. Elle écrit: un homme redescend à la tienne avec des chevaux qu'il conduit et j'en profite pour t'envoyer quelques lignes à la hâte, car l'homme est pressé. J'ai été à Shigatse, donc au Tibet, une ville du Tibet, et t'enverrai un récit détaillé de ce voyage. J'ai reçu le plus excellent accueil du Tashi Lama je me connaissais déjà par correspondance, et de sa mère, une vieille dame fort aimable. J'ai rendu visite à plusieurs lamas de haut rang. Bref, séjour intéressant, mes voyages passablement fatigants pour l'Amazone de trop fraîche date que je suis. Elle marche à pied ou bien elle est sur dos de yak. Je repars après-demain pour rendre visite à un ermite logé dans une grotte au perché dans la montagne. Et ceci fait, je m'en retourne chez moi à la chaîne. Le tassi-lama et sa mère m'ont gadoté assez joliment. Beaucoup de cadeaux. Ce qui a excité grande admiration et considération pour ma personne. Il s'agit en fait là de la deuxième échappée d'Alexandra aussi. La première, c'était en 1914. C'est le Maharaja qui avait confié son intention lors d'une excursion, comme elle avait dit. Il l'avait donc accompagnée assez loin, franchissant avec elle et les yaks plusieurs cols de très haute altitude. Mais il était reparti, car les Anglais n'auraient pas apprécié qu'il entre ainsi clandestinement au Tibet. Mais Alexandra est tombée malade. Il semble impossible d'acquérir de la nourriture et elle abandonne. Cette fois, le résident anglais n'a pas du tout apprécié son tour à Chidalisé, des plumes blanches et des relations amicales avec le Tashilama. Elle est triste, il a éclaté en coups de foudre. Il a donné de lourdes amendes collectives aux villageois et de même pour elle-même. Elle écrit encore, il lui est heureusement interdit de nous pendre, mais il doit en griller d'envie. Elle prend donc, encore une fois, à regret, le chemin du retour vers la Seine. Et cette fois, elle décide qu'elle partira au Japon. La suite des aventures, mardi prochain. Et en attendant, bonne semaine à toutes et à tous.